Coucou, bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi, effectivement veille de week-end, l'émission C'est beau, c'est bon, vous êtes bien sur votre radio préférée, ne changez pas de fréquence, jetez-moi cette zapette, 98.4 avec aux manettes Francis, le président de la radio de l'Entre-deux-Mers. Et des invités aujourd'hui, des invités de qualité, comme à chaque fois dans cette émission, bien entendu, je voudrais saluer la venue de monsieur le maire Bruno Marty de la Réole. Je voudrais saluer, bien entendu, deux autres personnes. Il y a Florence Bolmont et Axel Campourcy qui sont ici. Bonjour, bonjour à vous. Florence, oui, elle est cachée dans son petit coin et ils partagent un micro pour deux. Nous allons évoquer une date importante et puis une manifestation qui à la Réole, une ville qui bouge et qui bouge grâce à une équipe municipale en place et dynamique. Eh bien, nous allons parler d'un point important, Monsieur Bruno Marty, Silver Economy.
Oui, alors Silver Economy. Alors juste, effectivement, je suis maire de la Réole, mais je suis aussi président du pôle territorial qui regroupe les 5 communautés de communes du sud du Rhône et qui porte effectivement le salon du bien vieillir. Alors, j'aime pas Silver Economy, d'ailleurs, ça avait changé, puisque derrière Silver Economy, il y a l'économie autour des personnes âgées. En fait, il y a d'autres opportunités que, notamment pour les personnes âgées.
Bien sûr.
Que le volet économique, il y a le volet du bénévolat, il y a l'habitat. Donc, effectivement, un forum porté par le pôle territorial qui aura lieu le mardi 23 février.
Donc notez bien dans vos tablettes le mardi 23 février.
De 9h30 à 17h30.
Où exactement ?
Eh bien, c'est du 100% numérique puisqu'on s'adapte aux conditions actuelles puisqu'on ne peut pas faire de rassemblement. C'est une expérimentation puisque le dernier salon avait lieu en présentiel en 2019. Il devait avoir lieu en 2020. Il a été décalé donc au mois de février. Et je pense que ça nous permettra aussi de voir que peut-être aller dans le futur mélanger à la fois du présentiel et du distanciel.
Oui, oui, c'est un bouleversement. Il y a eu un avant, il y a un pendant, il y aura un après.
Je pense que l'après, en fait, à mon sens, permettra, en tout cas, ce qui se passe actuellement permettra de nous faire évoluer dans l'après. Je pense que ce type de forum qui aujourd'hui était jusqu'à présent un forum local puisque c'était du présentiel avec 500 visiteurs se numérise à 100% puisque, comme je l'ai dit, nous n'avons pas trop le choix.
Covid oblige
et peut-être que plus tard on pourra effectivement faire un mixte à la fois du présentiel et du distanciel.
Donc l'édition de cette année aura lieu le 23 février, donc notez-le bien, comment faire pour se connecter, comment faire pour participer, comment faire pour regarder, écouter et choisir bien entendu les thèmes qui seront développés tout au long de cette journée.
Alors comme je suis prêteur, même si je maîtrise parfaitement ce forum, je vais donner la parole, si vous le souhaitez, à Axel peut-être, et voilà, qui va nous donner tous les conseils.
D'accord, Axel.
Exactement.
Campourcy, tu as la parole, mon petit Axel.
Alors, pour participer à ce forum, c'est assez simple, même s'il y a plusieurs démarches à suivre. Dans un premier temps, il faut que vous vous inscriviez à ce forum. Et pour ce faire, je vous invite à aller sur la page internet du pôle territorial Sud Gironde. Donc, c'est www.pôlesudgironde.fr. Et une fois sur la page d'accueil, vous verrez assez facilement qu'il y aura toutes les indications pour vous inscrire au forum. Et donc, dans les étapes d'inscription, vous verrez un lien. Vous cliquez sur ce lien et ce lien vous renvoie vers une page internet pour vous y inscrire. Alors, c'est assez simple. Une fois sur ce site internet, il y a une case avec marqué inscription. Vous cliquez dessus et ensuite, on vous demandera votre nom, votre prénom, comme pour n'importe quel forum. En fait, il faudra donner vos informations personnelles que je viens de citer. Et du coup, bah là, c'est fait. Vous êtes inscrit. Vous recevrez un mail de confirmation et également un mail la veille, donc à savoir le lundi, pour vous donner l'accès.
Le 22 au soir, vous allez recevoir un mail de confirmation.
C'est ça, exactement, qui vous donnera accès au site pour le jour J, donc le 23 février, pour pouvoir accéder à la plateforme du forum où vous pourrez retrouver tous les exposants, des conférences.
Il y en a 80, je
et
crois.
Et des animations. Oui, environ, ouais. On est à peu près à 80. Il y a une trentaine d'animations. Donc, c'est-à-dire que chaque exposant, sur son propre stand, à l'image d'un salon physique, propose des animations. Donc, ça va dépendre des thématiques qui seront proposées. Et également des conférences, à l'image des conférences qui peuvent être faites dans les salles plénières, sur différents thèmes, donc comme le disait M. Marty, sur l'habitat, sur la formation, sur l'emploi, car il y a également une bourse de l'emploi
bien sûr.
De ce salon, sur la question du bénévolat et des manières de s'engager dans les associations, et enfin sur la prévention, avec différentes thématiques qui seront abordées. Voilà, j'ajoute également que s'il y a des difficultés particulières pour vous inscrire, on vous propose un accompagnement. Donc, il faudra s'adresser pour cela à Corinne Hébert, qui est disponible.
Notez bien, Corinne Hébert.
Exactement, que vous pouvez joindre par téléphone ou par mail. Donc, je vais donner son numéro de téléphone. C'est le 07 61.
Attendez, laissez le temps aux auditeurs de prendre une feuille de papier et un crayon. Parce que très souvent, ils prennent un crayon. Celui qui est rousillé et qu'on utilise devant la télé en faisant des sudokus n'est pas bon, il ne fonctionne pas. Voilà, ça y est, vous avez votre crayon. Si vous trouvez des difficultés pour vous inscrire sur le net, vous pouvez contacter Corinne Hébert.
Exactement.
Le numéro de téléphone.
D'accord. Donc, munissez-vous de votre crayon. Donc, c'est le 07 61 77 30 56.
Très bien. Répétez-le encore une fois.
07 61 77 30 56. Donc voilà, pour n'importe quelle difficulté, si les indications que je vous ai données n'étaient pas suffisamment claires, vous pouvez la joindre et elle vous accompagnera, elle vous guidera pour
Très
vous
inscrire. Bien. Merci Axel de ces renseignements importants techniques. Donc vous vous inscrivez quelques jours avant, la veille le 22, donc la veille de cette manifestation, vous allez recevoir un mail de confirmation, et vous allez pouvoir choisir vos ateliers, en fait, parce que vous pouvez très bien rester branché toute la journée, mais vous pouvez très bien ne choisir que ce que vous voulez. C'est à la carte, en fait.
Exactement. C'est-à-dire que, bah, comme on l'a dit, il y a un grand nombre d'exposants, il y a un grand nombre d'animations également, vous ne pourrez pas participer à chacune d'entre elles, mais je vous invite donc à parcourir le programme de cette journée, qui est également sur notre site internet. Donc, je répète, www.paulsudgironde.fr et sur lequel vous pourrez voir que donc il y a différents thèmes qui sont abordés, hein, je répète là aussi, la question de l'habitat avec la question de l'adaptation et de l'aménagement du logement, le sujet de la prévention, donc ça c'est un thème très large avec l'isolement, le numérique, la nutrition, le sommeil, les troubles musculo-squelettiques, etc. Donc il y a beaucoup de sujets qui seront développés.
Des sujets qui sont d'actualité et des sujets qui sont notamment qui correspondent à l'état d'esprit, je dirais, de la tranche d'âge des personnes concernées.
Exactement. Ben, ça s'adresse aux seniors, mais pas que, justement, puisque ça s'adresse aussi aux demandeurs d'emploi. Comme je le disais, il y a une bourse de l'emploi. Donc,
il n'y a pas besoin d'être âgé pour chercher un travail.
Non, exactement.
Mais il y a également des personnes âgées qui continuent de travailler.
C'est vrai, tout à fait. Et il y a aussi des personnes âgées qui s'engagent dans des vies associatives. C'est pour cette raison qu'il y a une bourse au bénévolat qui vous permettra de rencontrer les associations de votre territoire
Très
et
bien.
Éventuellement de vous y engager. Et enfin, un dernier pôle qui, lui, s'adresse aux étudiants cette fois, puisque c'est le pôle de la formation. Donc seront présents différents lycées du territoire, différents centres de formation, qui proposeront donc des formations en lien avec la question de l'autonomie et de l'accompagnement pour les personnes âgées.
D'accord, très bien. Donc le programme, vous l'avez vu. Rappelez-vous, notez-le, c'est le 23, c'est important. Ne sortez pas, n'allez pas faire vos courses parce que vous allez nécessairement trouver un ou plusieurs ateliers qui correspondront exactement à des questionnements qui apporteront des réponses. Donc, je le disais, vous avez un problème. Vous avez un problème. La mairie de La Réole sera la solution. Voilà. Si vous ne faites pas partie du problème, vous êtes dans la solution. J'ai la chance d'avoir à ma droite Florence Bollemont, qui elle s'occupe et qui va pouvoir développer peut-être un peu plus le thème de ces ateliers en nous donnant quelques informations complémentaires, notamment sur le bien vieillir, notamment sur la façon dont va se dérouler cette journée et à quelle cadence et comment peut-on envisager, je dirais, de pouvoir poser des questions. Est-ce qu'il faut s'y prendre la veille ou est-ce qu'il faut s'y prendre le jour même
Alors, moi, je conseille plutôt de s'y prendre le jour même. Alors, concernant aussi les inscriptions, il est possible aussi de s'inscrire le jour même. C'est-à-dire qu'on peut...
On est bien d'accord, on peut s'inscrire à la minute même.
À la minute même. Vous serez toujours accompagnée, Corinne Hébert sera toujours présente, même si elle aussi va tenir un stand. Alors, on a dit qu'il y avait 80 exposants, 150 intervenants sur différentes thématiques.
Donc, ce qui veut dire qu'il y aura plusieurs intervenants en même temps.
En même temps.
Mais sur des sujets différents, on est bien d'accord.
Sur des sujets différents, il y aura... Donc, vous avez accès... Une fois que vous accédez, en fait, à la plateforme, vous pouvez, en fait, parcourir le programme. Aussi bien des activités, mais aussi des conférences, vous inscrire à l'avance, mais aussi prendre des rendez-vous, pourquoi pas, avec les exposants. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas participer à une conférence, vous pouvez quand même prendre un rendez-vous ou même poser une question à un intervenant ou rejoindre aussi des amis qui participent aussi à la plateforme et aller ensemble prendre rendez-vous, par exemple, pour Pôle emploi auprès d'un employeur ou auprès d'un lycée, puisqu'il y aura différents lycées aussi qui seront présents pour présenter les différentes formations. Mais aussi au niveau des intervenants, je pense aux diététiciennes, je pense aussi aux organismes qui s'occupent des aides à domicile. Et aussi au niveau de la solution Habitat, et pourquoi pas auprès des institutions, puisqu'il y aura aussi, par exemple, le département qui sera présent, la région, l'ARS, Pôle emploi, voilà. Donc autant d'intervenants, autant de personnes disponibles et présentes pour pouvoir répondre à vos questions, aux interrogations, et trouver des solutions pour conserver l'autonomie et surtout bien vieillir, aussi bien grandir, puisqu'on parle aussi de l'emploi, de la formation, donc ça s'adresse également aux jeunes. Et je tiens aussi à insister que ce forum, en fait, est vraiment intergénérationnel. Parce que autant vous avez une aide pour la préinscription et l'inscription le jour même à la plateforme, que le jour J, en fait, grâce aux jeunes du lycée de Bazas, vous pourrez aussi, en fait, naviguer facilement sur la plateforme. Si vous n'êtes pas habitué à aller sur une visio, enfin, à participer à une visioconférence ou à aller surfer comme ça, à chercher des informations à droite, à gauche, vous aurez la possibilité, grâce au pavé accueil, à tomber directement sur des jeunes lycéens qui seront présents pour vous accompagner à naviguer, vous inscrire, prendre des rendez-vous avec des intervenants, des interlocuteurs ou participer à une conférence. Je trouve que c'est vraiment intéressant et pour eux et pour nous tous, de participer à cette expérience. Et c'est en ça aussi que ce forum Bien Vieillir prend de l'ampleur, grandit et est vraiment intergénérationnel.
Si j'ai bien compris, c'est un passage de témoin, en fait. On s'aperçoit qu'il y a des jeunes, il y a des gens moins jeunes. Alors, ça devient difficile de parler des personnes qui sont dans ce que l'on appelait le troisième âge. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On ne peut pas dire les vieux, on ne peut pas dire les seniors. On ne sait plus ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Toujours est-il que la vieillesse n'est pas une maladie, que la vieillesse n'est pas un état de fait, c'est tout simplement une réalité. Et ce passage de témoin, c'est-à-dire de savoir que des personnes qui s'engagent dans le bénévolat, et s'il y a parmi vous des personnes qui sont à la retraite, qui s'ennuient un petit peu, quelquefois on s'ennuie, hein, quand on voit les temps qu'il a fait ces derniers temps, on se pose quelques questions. Donc plutôt que de rester le cul vissé sur une chaise à regarder des conneries à la télé, eh bien vous pouvez donner de votre temps pour passer le témoin, et votre expérience pourra permettre à des jeunes d'avancer, de comprendre le passage du témoin sur les fondamentaux, parce que très souvent on oublie que la transmission du savoir, la transmission, elle doit se faire par une génération qui a vécu et qui a derrière elle un bagage. Alors, ce n'est pas parce qu'on a 40 ans de métier qu'on est bon. Si ça fait 40 ans qu'on travaille comme un abruti, comme un imbécile, à ne pas savoir ce que l'on fait, ça ne sert à rien. Ce que je veux dire par là, c'est de transmettre ce qu'il faut transmettre. Donc le bénévolat, c'est aussi important. Il y a une part d'altruisme dans chaque Français, et le bénévolat doit être pris de façon sérieuse et de façon, je dirais, importante pour cette jeunesse de demain, pour la pépinière de demain. Alors, est-ce que, au niveau du bénévolat, est-ce qu'il y a des associations spécifiques qui manquent cruellement de bénévoles?
Alors, bah oui, sur ce sujet-là, et c'est aussi pour cette raison qu'on fait cette bourse au bénévolat, pour l'instant, il y a 7 associations du territoire qui seront présentes le jour du forum et qui, alors, je ne sais pas si on peut dire manquer cruellement, mais qui, en tout cas, ont besoin de mains, de jambes, de cerveau.
Qui ont besoin aujourd'hui, demain.
Exactement. Qui auront demain besoin, demain également.
Voilà, c'est un jeu de mots, mais c'est pour le souligner. On a besoin aujourd'hui même,
de bénévoles.
De savoir-faire, de bénévoles qui ont un savoir-faire.
Exactement. Et souvent, et c'est aussi l'intérêt de s'adresser à des personnes qui sont retraitées, elles peuvent faire bénéficier de toutes les compétences qu'elles ont pu avoir, de leur expérience.
Qu'elles soient techniques, qu'elles soient intellectuelles, peu importe.
Exactement. Et il y a des besoins. Et en plus de ça, il y a un panel d'associations assez large, et c'est ça qui est intéressant. Des associations d'éducation à l'environnement, d'accompagnement des personnes démunies, je pense à Petits Frères des Pauvres, par exemple. Des associations d'accompagnement pour les entreprises, qui en ont besoin, je crois, en ce moment. Je pense à France Active, à l'ADI. Voilà, tout un panel d'associations qui sera représenté. Et en chef de file, France Bénévolat Gironde, qui est un réseau d'associations qui promeut l'engagement bénévole, accompagne les associations qui souhaitent chercher des bénévoles et qui accompagne également n'importe qui dans sa recherche d'actions associatives. Donc, c'est-à-dire que vous aurez l'occasion, le jour du salon, de vous entretenir avec un membre de France Bénévolat qui vous fera comme un petit diagnostic, comme un petit entretien pour vous diriger vers les associations
qui sont
le plus susceptibles de vous intéresser. Tout à fait.
Oui, monsieur le maire de La Réole, Bruno Marty, vous voulez prendre la parole. Oui, je t'écoute, Bruno.
Je pense qu'effectivement, ce volet est très important parce qu'on voit aujourd'hui, c'est la mise en relation. Et notamment des personnes âgées qui se sentent souvent inutiles, qu'il faut aller chercher, qui sont prêtes à donner de leur temps.
Qui s'isolent, en fait.
Et qui s'isolent. Et si on ne va pas les chercher, si on ne les met pas en relation avec les associations, souffrent de cet isolement, encore plus aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, ce point est à développer. Comment aller chercher les personnes qui sont isolées, qui sont prêtes à donner de leur temps, et on le voit quand on...
Et qui n'osent pas, qui ont une certaine timidité, qui ont peur de déranger, qui ont peur de ne pas être à la page, qui ont peur de tellement de choses.
Oui, et effectivement, alors de façon locale, nous, sur une commune, on sait le faire, c'est-à-dire aller chercher les personnes, les orienter vers des associations pour qu'ils deviennent actifs, parce que aujourd'hui, c'est un véritable enjeu, rendre actif une partie de la population qui est complètement isolée et qui vivent mal, notamment leur âge. Alors que dès qu'elles sont mises dans des associations, rajeunissent. Donc voilà, je pense que ce volet est très important. Et je voulais aussi parler d'un autre volet qui sera développé par le département, puisque c'est quand même quelque chose qui tient à cœur beaucoup au président Jean-Luc Glaise du département, c'est l'aide aux aidants. Donc il y aura une conférence qui sera donnée, je n'ai pas l'heure devant moi, donc à 14h30, sur le soutien aux aidants, la feuille de route qui est mise en place par le département, puisque là aussi on a des situations qui sont de plus en plus compliquées, où les personnes ont de la famille, souvent des parents qu'ils accompagnent, mais voilà, quel est le soutien qu'on leur apporte, c'est aussi une question qui est portée par le CLIC le fait de temps en temps que ces personnes qui accompagnent les personnes en difficulté puissent se retrouver, échanger. Donc voilà, il y a une conférence qui a lieu à 14h30 que je vous conseille vivement. D'ailleurs, je vous conseille toutes ces animations. Je voudrais juste aussi en profiter pour remercier quand même au pôle territorial Élodie Delagrange qui a porté quand même ce forum Bienveillir de façon magistrale. Féliciter aussi Florence pour le volet communication et accompagnement qui permet à ce que ce salon puisse vraiment prendre sa place sur le territoire de la Gironde. Voilà, et féliciter globalement l'ensemble de mon équipe au niveau du pôle territorial, que ce soit technicien et élu.
Très bien, monsieur le maire, c'est une sage décision et ce sont des propos sains qui me plaisent beaucoup et qui nous plaisent beaucoup à la radio de l'Entre-deux-Mers, 98.4. Je voulais revenir sur les aidants. Effectivement, il est important de souligner que les aidants qui participent, au fait que des personnes âgées ou même quelquefois jeunes, n'ont pas envie d'aller dans des maisons spécialisées, dans des EHPAD ou dans des centres spécialisés. Et les aidants sont des membres de la famille qui prennent tout en pleine gueule, en fait. Et je peux vous assurer que quand une famille décide de s'occuper d'une personne proche, un papa, une maman, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, parce qu'on n'a pas envie de la voir partir ou parce qu'on n'a pas les moyens non plus quelquefois de se payer ces maisons qui ont un coût, hein, je crois que c'est important de le souligner. Moi, j'ai ma tante qui est en Savoie, pour ne pas vous le cacher, elle est à la frontière suisse, elle est française, et il a fallu en urgence trouver une maison pour la sécuriser, parce que la maladie d'Alzheimer, au-delà de 90 ans, a fait des dégâts considérables dans son cerveau. Et cette maladie neurodégénératrice eh bien, fait qu'elle est dans une maison qui coûte 4 500 € par mois. 4 500 €, la moyenne nationale est entre 2 et 3 000 euros. Si on n'a pas une retraite suffisamment confortable et une assise financière, quid. Donc la famille se substitue, je dirais. Mais c'est vrai que pour les aidants, c'est moralement, parce que n'oublions pas que les aidants, c'est un véritable métier. Et en plus de savoir que ce sont ses propres parents, quelquefois, sa propre famille, que l'on est obligé de traiter, de suivre au quotidien, c'est dur. C'est dur de changer les couches d'un papa, d'une maman. C'est dur de donner à manger à un être humain qui ne vous reconnaît plus. C'est dur. Et il faut penser à ces aidantes au pluriel. Et je voudrais les saluer toutes et tous ici, parce que c'est vraiment quelque chose de formidable, tout ce qu'ils font. Et sachez que la radio de l'Entre-deux-Mers, eh bien, s'associe à leur douleur, s'associe à leur fatigue morale. Une fatigue morale est pire qu'une fatigue physique. Ma maman est également atteinte de cette maladie d'Alzheimer, et je sais ce que c'est. Elle vit en Franche-Comté, dans sa maison natale. Mais je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout. Voilà, c'est pas drôle du tout de voir un être humain partir dans ces conditions-là. Donc, on ne le souhaite à personne. Merci en tous les cas. Ma petite Florence, des choses à rajouter sur ce que nous sommes en train de dire ?
Non, je regardais, je pense qu'on a fait le tour.
Juste, si je peux dire une chose, notamment, et revenir sur le fait que le pôle territorial a souhaité garder cet accueil qui était à l'époque physique des lycéens de Bazas. Puisqu'il faut savoir que dans la formation de ces lycéens, il y a ce volet organisation d'événements et accompagnement sur des événements type forum. Le clin d'œil, je pense que c'est se dire que même si effectivement on passe en dématérialisé, ces jeunes qui ont le savoir du numérique peuvent accompagner. Je pense ça va être aussi leur force, hein, la force de leur jeunesse, de pouvoir accompagner au mieux l'ensemble des visiteurs sur les différents ateliers. Et pour rien vous cacher, nous avons fait une conférence de presse il y a une semaine à peu près. Et franchement, quand on rentre dans le forum, même s'il n'y a pas d'univers en trois dimensions, on a vraiment l'impression d'être physiquement assis sur une table avec effectivement la vision des webcams des uns et des autres. Donc voilà, je pense que c'est pour nous, en tout cas pôle territorial, c'est un véritable galop d'essai qui, à mon avis, nous amènera à revoir peut-être les futurs forums, et je redis, peut-être ce mixte entre du présentiel et du distanciel, parce que le distanciel a quand même cet avantage qu'on n'a pas besoin de se déplacer, que même si on habite dans le nord de la France, on peut assister à
complètement.
Ce
et voilà. Je confirme que le distanciel peut être très convivial également aussi, et ça sera une belle leçon pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de personne physique devant vous, eh bien vous allez voir, vous allez vivre un grand moment exceptionnel. Et ça, je tiens à le souligner, c'est hyper important. On va faire une coupure musicale, toute petite, qui va durer quelques poignées de minutes, parce qu'à cette époque-là, on parle beaucoup de l'Eurovision. On parle de l'Eurovision dans les années 62-63. Les chanteurs chantaient des chansons dans la langue du pays qu'ils représentaient. C'était la tradition. Donc on va faire un premier morceau de musique avec un Allemand qui se prénommait Camillo et qui a remporté le prix de l'Eurovision en 1962. Et la chanson, c'était Warum. 1962, Warum, Grand Prix de l'Eurovision, l'Allemagne. Maintenant, c'est les pays de l'Est hein, qui se votent les uns pour les autres. La Lituanie contre la Turquie contre... Bref, et même l'Australie. Hein, l'Eurovision, cherchez l'erreur, l'Australie. Allez, on y va. Warum.
allein. Ich bin allein. Und frag, warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum? Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum? Ich wollte glücklich sein, doch du ließ mich allein. Wann kommst du zurück? Sag, wann scheint uns das Glück? Oh ja, das wäre schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
Warum? Tout simplement, pourquoi? La deuxième chanson tout à l'heure sera une chanson italienne, chantée en italien par Gingola Cinquetti, qui chantait Nono l'età. Nono l'età qui, en traduction française, veut tout simplement dire « je suis trop jeune ». Voilà. Donc nous avons évoqué ce salon du 23, mais n'oubliez pas bien entendu que la mairie de la Réole est à votre écoute, est à votre disposition 365 jours par an, et que nous avons devant nous une équipe dynamique, et plus particulièrement l'occurrence son maire, Monsieur Bruno Marti. Je voudrais, Monsieur Bruno Marti, savoir que gérer une commune n'est pas simple. Il y a combien d'habitants à la Réole ?
4500.
4500 habitants, et vous venez de vivre, je dirais, une période inattendue, une période compliquée, une période difficile. Vous avez vécu une inondation catastrophique, comme dans tout le sud-ouest, et plus particulièrement le Lot-et-Garonne, le Gers et la Gironde. Je vous ai vu, monsieur le maire, je vous ai vu, et je voulais féliciter l'homme de cœur que vous étiez, parce que, non pas pour paraître, mais tout simplement parce que vous étiez inquiet d'aller au-devant de ces habitants, de ces personnes, hommes et femmes, qui étaient isolés, qui étaient perdus au milieu des eaux. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu cet épisode, comment l'avez-vous vécu et comment en est sortie la ville de la Réole, et quelles sont vos impressions sur le fait, et là je suis un petit peu stupéfait de savoir que le Lot-et-Garonne et le Gers ont été déclarés en zone, bien entendu, catastrophe naturelle, et aucune commune de Gironde ne l'a été. Quel est votre regard sur cette actualité, monsieur Marti ?
Oui, je pense que c'est un oubli. Je pense que quand monsieur Cassex est venu dans le Lot-et-Garonne, il a dû confondre la Gironde et le Lot-et-Garonne. Mais bon, ça c'est. Je pense que cet oubli va être rattrapé demain, je l'espère, puisque demain il y a le Conseil des ministres qui doit se tenir pour statuer sur le fait ou d'une mise en catastrophe naturelle du département de la Gironde. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, ça a été un épisode quand même très douloureux pour de nombreuses familles qui ont tout perdu, clairement. Nous, sur le Réolé en Sud-Gironde, il faut savoir que c'est à peu près 2300 hectares qui ont été complètement inondés. Des habitants qui ne s'y attendaient pas, même si, effectivement, on les avait prévenus, puisqu'on a connu cette crise en 1980 aussi. Mais qui sont trouvés complètement isolés, notamment je pense aux habitants de Barry, de Bassane, de Foudès et aussi de la Réole. sans oublier Puy Barbon, je vais peut-être pas tous les citer, mais il n'y a pas eu que le Réolais qui a été touché, hein, puisque tout, que ce soit le Langonnais, que ce soit...
Bien sûr.
Voilà. Donc effectivement, quand on est maire, on a la responsabilité aussi de ses citoyens, et sans avoir la responsabilité, quand on est un homme, tout simplement, on se doit aussi de veiller à son prochain. Donc ça a été d'ailleurs, c'est toujours ce que je mets en place, hein. Ça a été pareil en 2019, c'était un peu plus bref en 2019 puisque ça durait 4 jours. Là, c'était 6 jours et pour tout vous dire, on dort 12 heures en 6 jours. Mais on le doit pour ses citoyens, on le doit pour ses prochains. Et c'est pas fini, puisqu'il y a l'après. Et non seulement on a accompagné nos habitants de la ville d'Aréole, les habitants du Réolais, et pour tout vous dire, samedi, on va, les Réolais qui ont à peu près tout nettoyé vont sur Barry pour faire un grand nettoyage, puisqu'il y a un appel de la des habitants de Barry pour venir les aider. Donc voilà, on va tous se rassembler, ça permettra de se retrouver. Voilà, je pense que ça permet aussi de voir que l'humanité n'est pas si mauvaise qu'on le dit, hein. J'ai jamais vu autant de personnes se mobiliser lors de cet épisode. Beaucoup de personnes qui sont venues prêter main forte, des entreprises qui sont venues, qui ont proposé aussi des supermarchés, qui ont proposé des produits pour les personnes qui étaient isolées. Voilà, donc c'est à la fois effectivement un drame, mais pas une tragédie, puisqu'il n'y a pas eu de victimes. Mais en même temps, ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Voilà, je pense que ça a permis de remettre en avant la solidarité que l'on avait connue d'ailleurs pendant la période du Covid au mois de mars. Et donc, ça fait toujours plaisir.
Solidarité, fraternité, voilà. C'est vrai, ça ressoude les liens dans une ville, 4500 habitants, nous le répétons, et ça, c'est très important. Comment est-ce qu'il y a une cellule de crise? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone particulier au niveau de la mairie? Ou est-ce qu'il y a une personne à contacter si vous avez des soucis?
Là, c'est pour l'ensemble de la communauté de communes, puisque, comme je dis, il y a eu la pré-crise. On a mis en place sur le Réolais, mais en tout cas, ça a été centralisé par la ville de la Réole, une cellule de dons, en fait, où des personnes, en fait, proposent que ce soit des appareils ménagers, que ce soit des meubles, que ce soit des vêtements. Donc, peuvent aller sur le site, ça s'appelle laréolesolidaires.fr. Et là, en fait, écrivent en proposant des dons, et en même temps les besoins et les personnes qui en ont besoin. Et c'est ça qui pose question aujourd'hui. On a eu quand même énormément de sinistrés. Je redis que sur la Réole, on a à peu près une centaine d'habitations, mais sur Barry, sur Bassane, sur Flodès, c'est autant, voire plus. Et très peu aujourd'hui, alors qu'ils ont tout perdu, ils n'ont plus de meubles. On fait appel encore à de l'aide, notamment matérielle. Donc je pense que cette phase n'est pas... Là, ils en sont encore sur une phase de nettoyage. Je pense qu'il y aura, à mon avis, d'ici une quinzaine de jours...
Un inventaire complet des dégâts.
Exactement, exactement. Et je pense qu'il y aura aussi, à mon avis, et je l'ai dit encore ce matin, un accompagnement psychologique, parce que beaucoup de personnes ont très très mal vécu cet épisode, d'autant plus que, je le redis, c'est quand même un épisode qui vient juste après l'épisode ou pendant l'épisode Covid. Où on vit, beaucoup de vie, personnes vivent depuis le mois de mars comme un enfermement, et donc se retrouver isolé physiquement cette fois-ci à cause de l'eau. Voilà, ça n'a fait que rajouter à cette fragilité ambiante.
Je tenais, monsieur le maire, à vous remercier à titre personnel, également au nom de la radio et de l'Entre-deux-Mers 98.4, de toutes ces initiatives qui ont été prises, je dirais, sous le feu de l'actualité. Une actualité pas réjouissante, une actualité qui ne doit pas être triste, bien entendu, mais c'est quand même une double peine. Entre la Covid depuis 2020, depuis maintenant bientôt 12 mois, plus les inondations, plus, plus, il arrive un moment où effectivement l'être humain se pose des questions. Maintenant, effectivement, l'être humain n'est pas responsable. Nous portons tous une partie de responsabilité dans tout ce qui se passe, effectivement, réchauffement de la planète et tout. Mais la mairie de la Réole et la municipalité, ainsi que l'équipe municipale, a fait ce qu'il fallait. Et il faut le dire, il faut le souligner, il faut dépolitiser le débat et tout simplement penser qu'à la mairie, il y a des hommes et des femmes qui sont là pour gérer une situation de crise. Cette situation de crise, vous avez pu le voir sur vos écrans de télévision. Le maire était en première ligne avec ses adjoints, avec le conseil municipal, pour venir en aide, bien entendu, et s'inquiéter, et de sécuriser et de réconforter les personnes qui en avaient besoin. Merci, monsieur Bruno Marti, de cette initiative et de ce... Oui, tu veux dire ?
Oui, je vais juste dire que je suis un des maires parmi tant d'autres. Effectivement, les médias ont fait un focus sur ce qui se passait à la Réole, mais je tenais aussi à féliciter l'ensemble des maires qui ont fait la même chose de façon peut-être moins médiatisée. Bon, bien entendu, quand les médias sont là, c'est très compliqué, vous le savez, de le repousser. En plus, je ne pense pas que ça soit aussi une bonne chose. Mais voilà, je pense et je tire mon chapeau aussi à l'ensemble des maires qui n'ont, comme moi, que très peu dormi et qui ont pu, grâce à leur action, en tout cas éviter des drames. Voilà, donc je tenais sincèrement aussi à les féliciter.
Et bon, on félicite Barry, d'ailleurs Barry qui n'a rien à voir, mais il y avait un film dans les années 30 qui s'appelait Barry, chien fidèle, une très belle histoire d'homme et d'animal, et je dois le dire. Merci à Axel d'être présente, donc vous la retrouverez le 23 avec Florence. Donc, d'être présent, pardon, Axel, excuse-moi, prénom masculin, féminin, je m'en mêle les crayons. Axel, bien entendu, Campoursi, d'origine italienne, et Florence Bolmont, qui nous a accompagnés pour nous parler de cette journée du 23, la Silver Economy. Eh bien, merci à vous tous, merci à vous toutes. Nous vous souhaitons une belle journée du 23. Je sais que vous êtes sur le pied de guerre, c'est dans quelques jours, bien une petite semaine. Merci à vous d'être venu à la rencontre et de venir nous expliquer eh bien, tout ce qu'il fallait faire pour vous connecter. J'espère que vous avez bien pris des notes, sinon bien vous téléphonez à la radio, on saura vous guider. Vous embrassez, monsieur le maire, tous vos 4500 êtres vivants et nous pensons à la Réole, belle petite ville du sud Gironde. On vous fait des gros bisous, des gros câlins et tous les Réolaises et les Réolais, eh bien, on vous embrasse très fort et bravo pour cette solidarité, cette fraternité, cette générosité. Et c'est vrai que malheureusement, il faut quelquefois des incidents de parcours pour resserrer les liens. Voilà. Un deuxième morceau de musique, Gingola Cinquetti, Nono l'État. Je vais recevoir une personnalité de l'entre-deux-mers, Jean-Marie Darmian, et son roman qui vient de sortir et dont nous allons pouvoir évoquer des souvenirs d'enfance. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Transmettez à toute l'équipe municipale, Monsieur Bruno Marti, toute notre sympathie et toute notre compassion. Merci, gros bisous à vous. Gingola Cinquetti, quelques minutes.
Amarti, non ho l'età. per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai.
C'était du temps où l'Eurovision avait du sens, contrairement à ce qu'il se passe un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, je reçois Jean-Marie Darmian, un personnage haut, grand, costaud, baraqué, souriant, l'œil rieur. Je connais Jean-Marie depuis de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de le côtoyer dans différentes manifestations. Et je vais vous lire quelques lignes. Ezio Baziana, né en 1915, fils d'un couple italien arrivé dans la Première Guerre mondiale en Gironde. En Gironde, pour quoi faire ? Eh bien, pour se construire un avenir. Il va traverser la grande histoire. Il va franchir en tant qu'enfant de l'immigration les obstacles successifs que la vie va dresser sur son chemin. Originaire du village piémontais de Postua, d'où sont partis pour toutes les régions françaises les pionniers du béton armé, ses parents, entreprenants et opiniâtres, souhaitent le meilleur pour leur fils. Cet avenir familial, Giovanni Baziana, le père, l'imagine, le construit avec son cœur et sa raison, jusqu'au jour où tout s'effondre sur une plage du bassin d'Arcachon. Un roman écrit par M. Jean-Marie Darmian, qui encore pour quelques semaines est conseiller départemental élu. Jean-Marie, bonjour à toi.
Bonjour.
Je suis bouleversé par ce que j'ai entendu, parce que j'ai été te chercher à Créon et nous avons pu discuter un petit peu hors antenne et avant l'émission de ce que tu as écrit, et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu les raisons, la genèse de ce merveilleux roman qu'il me tarde de dévorer, parce que j'ai envie de le dévorer, j'ai envie de me délecter avec ce roman. Explique-nous un petit peu, parce que je crois savoir que c'est une histoire basée sur une histoire vraie qui a vu le jour à Sauveterre de Guyenne et à Créon.
Oui, c'est en fait l'histoire authentique d'un homme que j'ai croisé à la fin de sa vie, totalement peut-être inconnu dans sa personnalité des autres personnes qui vivaient, c'était un médecin réputé pour son diagnostic très dur, pour sa façon de vivre très dure, et qui en fait cachait derrière tout ça les blessures d'un immigré italien qui avait parcouru toutes les étapes, tous les étages de l'ascenseur social, mais aussi qui avait eu à affronter la dureté de la période historique de la deuxième moitié, ou de la grande deuxième moitié du XXe siècle.
Du XXe siècle.
Et j'ai voulu raconter sa vie parce qu'elle est allégorique de ce qu'a été la vie de tous les Italiens de l'entre-deux-mers, qui sont très nombreux. L'entre-deux-mers comptait des milliers de gens qui sont de la première, deuxième ou troisième génération, comme moi, d'Italiens, et qui, justement, peuvent se retrouver à travers un parcours à un niveau certes inférieur. Hein. Tout le monde n'a pas été médecin. Ça a été un des rares à devenir médecin, d'ailleurs. Mais par contre, ils ont été instituteurs, ils ont été professeurs, ils ont été quelquefois dans des fonctions de cultivateurs, ils ont joué un rôle essentiel, et surtout dans la modernisation à la fois de l'agriculture et à la fois la modernisation de la construction de notre pays.
Très bien. Alors, tu parles d'une chose que je connais très bien, puisque moi, je suis issu d'une région où, effectivement, j'ai été élevé dans une cité ouvrière, puisque dans la région de Belfort, Montbéliard, Sochaux, Peugeot, des milliers d'ouvriers, les Italiens étaient présents, les Polonais, et ensuite les Arabes, les musulmans, qui sont venus s'installer en France après le début des années 60. Donc, j'ai côtoyé ces Italiens, j'ai vécu au milieu de cette cité avec des copains, des copines italiens, et en parfaite harmonie, et il y a une chose qui m'a choqué dans tes propos, Jean-Marie, je ne te le cache pas, c'est l'histoire du certificat d'études. Là, je n'en suis toujours pas revenu. Raconte-nous cette anecdote qui n'est pas une anecdote, mais qui est quand même quelque chose de très grave.
Voilà. Alors, je précise que c'est un roman. Les circonstances dans lesquelles je décris cette affaire ne sont pas forcément exactes à la virgule près. Un jour, il me raconte que sa blessure la plus profonde, c'est celle du certificat d'études.
Donc, on passait le certificat d'études à 14 ans.
11 ans.
11 ans, 11 ans.
11 ans. Il le passe, lui, en 1926. Le certificat d'études est le viatique pour toute la réussite d'une vie. Et il va accomplir une scolarité exemplaire, très dure pour lui parce que personne ne parle français dans sa famille. Ça va mettre un certain temps, comme moi, mon père n'a jamais pu, à l'école, faire quelque chose, puisque l'instituteur venait voir en général les parents, il leur dirait « je vous interdis de lui parler italien », sauf qu'il fallait quand même vivre. Et donc, il passe un certificat d'études et il est prix cantonal. Ce qui, à l'époque, était faramineux. Le prix cantonal du certificat d'études, je l'ai connu dans ma première année d'instituteur, en 1967, avant que ça soit supprimé. C'était le Graal de l'instituteur. Celui qui avait un prix cantonal dans sa classe, il était considéré comme l'instituteur modèle. Donc il y avait une sorte de compétition entre les instituteurs qui était très forte et que j'ai connue. Et donc, il est prix cantonal. Et au moment où on va lui remettre le prix cantonal, c'est-à-dire au moment où il faut qu'il monte sur l'estrade, puisqu'il y avait toujours une estrade pour recevoir ses diplômes, au moment où il monte sur l'estrade, la personnalité qui est là lui dit « je ne remets pas le prix cantonal à un Italien, pas question », et descend de l'estrade et laisse le diplôme sur la table et il l'a pas. Et il m'avait dit que... il n'avait jamais pu se débarrasser de cette blessure qui était en lui pendant des décennies, parce qu'un enfant accumule.
C'est pas une blessure, c'est gravissime ce que tu dis, Jean-Louis.
Mais c'est vrai. Et il avait son certificat d'études dans son bureau, et il me le montrait de temps en temps. Il disait toujours, vous me croyez peut-être pas, mais le voilà. Il disait, il sortait son certificat d'études, qui était pour lui, il m'a l'a toujours dit, le plus grand diplôme qu'il ait obtenu, le certificat d'études. C'était assez extraordinaire.
Le certificat d'études dans les années 1920, c'était certainement plus difficile à obtenir que le bac maintenant.
Je ne me prononcerai pas, mais j'ai mon idée quand même. C'est très dur, oui.
Ah ben j'imagine.
Et il avait 11 ans.
Et donc il est né en 1915, en fait.
Il est né en 1915, et quand il naît, quelques mois après sa naissance, dans le roman, son père part à la guerre en Italie et disparaît pendant 4 ans. Disparaît pas, mais il part à la guerre dans les Apennins, où était mon grand-père d'ailleurs, dans les Alpini. C'était l'élite, les chasseurs alpins, quoi, qui se battaient dans l'école. Et il va revenir pratiquement à la fin de 1918, il va revenir en France. Et pendant 3 ans, c'est la première partie de sa vie. Il va survivre, ça aussi c'est une parole qui me resterait toujours. Il me disait toujours, on a survécu grâce au cheval. Alors je lui disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, il me disait, si ma mère n'avait pas eu le cheval pour faire le transport, pour trouver un peu d'argent, on serait mort de faim et de froid. Voilà. Et donc c'était aussi un grand moment pour moi, parce que ce certificat d'études lui permettait de concrétiser la réussite de ses parents. Et il va y arriver le drame, là, qui a été lu dans les premières lignes. C'est la deuxième vie, où il a récupéré son père, mais il va le reperdre de façon dramatique sur une hydrocution le premier jour où ils prennent la voiture pour aller sur le bassin d'Arcachon. Donc chaque fois, il surmontait ça. Il a toujours surmonté tout ce que la vie a mis devant lui parce qu'il avait le sentiment qu'il le devait à l'immigration de ses parents. Il ne pouvait pas les décevoir. Il fallait absolument qu'il soit quelque chose et il fallait absolument qu'il perce. Et ça, je l'ai prouvé moi aussi personnellement.
Très bien. Donc effectivement, émigrer, on arrive dans un pays que l'on ne connaît pas, une langue, même si c'est une langue latine, le français, que l'on ne connaît pas non plus, même s'il y a des similitudes avec l'italien. On s'aperçoit très vite que ça n'est pas simple et que ça n'est pas compliqué, que c'est très compliqué, pardon, Jean-Marie, mais surtout de comprendre, de se faire traiter aussi de noms pas très agréables.
Oui, parce que j'ai été surpris de voir une députée, je le dis parce que ça appartient à une...
Il faut le dire.
Elle le dit. Une députée, Madame Aubry, qui s'exprime en disant « être traité de macaroni, c'est pas raciste », elle ne connaît pas la dureté des cours d'école. C'est là que c'est dur. La cour d'école à Sadirac, où je suis né, où j'ai toujours vécu dans mon enfance avec mon frère, nous étions une dizaine de familles d'Italiens dans la cour de l'école. Jamais on sent une haine. Jamais on sent entre les enfants quelque chose qui peut correspondre à ce qu'on voit chez les adultes. Sauf que... Il y a toujours quelque chose, il y a toujours des choses qui remontent, des petits souvenirs, des choses comme ça. Mais être traité de macaroni, c'était quelque chose qui était péjoratif, au minimum péjoratif.
Complètement. Complètement, mais ce mot, ce ne sont pas les enfants qui l'ont inventé, c'est les enfants qui l'ont entendu à la maison.
C'est ça le problème.
Le problème, il est là, c'est pas de dire un enfant n'a pas la subtilité de traiter un Italien de macaroni.
Pas du tout. Et j'ai le souvenir de mon père, une fois humilié dans une réunion publique, je me souviens bien de cette réunion. Et c'est vrai que ça existait. Alors après, dire que ce n'est pas du racisme, au sens où peut-être on l'entend dans la violence actuelle ou dans les propos actuels.
Peut-être, je veux bien, mais c'en était quand même.
C'en était quand même, oui. Il y a eu des massacres d'Italiens, en particulier dans les Bouches-du-Rhône. Il y a eu ici quelques incidents divers. Mais bon, après, ça s'est estompé parce que les Italiens avaient un avantage, c'était leur capacité d'intégration. C'est-à-dire leur volonté de s'intégrer et de réussir. Parce que, d'abord, ils se sont retrouvés le dos au mur en 1924-25, les années comme ça, avec Mussolini. Donc, s'ils ne réussissaient pas en France, je ne vois pas comment ils seraient revenus là-bas pour un certain nombre d'entre eux.
Bien entendu, mais nous avons vécu, nous, des choses également très pénibles et très difficiles en France avec d'autres hommes politiques. C'est la même chose. Il y a des gens qui partent d'un côté en pensant que c'est le bon côté. Et quand on voit ce qu'il se passe en finale, on est fortement déçu et la déception est grande. On va écouter un petit morceau de musique, puisqu'on a dit qu'on allait écouter des chansons chantées dans la langue du pays qu'il représentait. Le Grand-Duché du Luxembourg, en 1964, avait choisi France Gall, et France Gall avait choisi Gainsbourg. Et la chanson qui a remporté le Grand Prix de l'Eurovision cette année-là, eh bien, c'était « Poupée de cire, poupée de son ». Donc troisième chanson après Varum, après Jingola Cinquetti, mais je le prononce peut-être mal le nom.
Si, très bien. Elle est venue chanter à Créon.
Elle est venue chanter à Créon. Je crois avoir vu, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une émission de Patrick Sébastien sur France Télévisions, la présence de cette chanteuse qui n'avait absolument pas changé, un petit bout de chou toujours pareil, adorable et souriante. Donc là, c'est France Gall, poupée de cire, poupée de son, encore un grand prix de l'Eurovision pour le Grand-Duché du Luxembourg.
Dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'un
l'âme, on n'est pas que dans les chansons. Poupée de cire, poupée de son. Un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
Et voilà, la chanson était terminée, comme je le disais depuis le début de cette émission à l'époque. 2 minutes, 2 minutes 30 et on avait fait le tour de la question. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Darmian pour ces dernières semaines de mandature au Conseil régional, après 38 ans, je crois.
38 ans de mandat électif, oui.
38 ans de mandat électif, soyez félicités, Jean-Marie, pour cette mise à disposition, cet altruisme, parce que c'est se mettre à la disposition des autres pour défendre bien des régions, des villes, des villages, des idées. Et vous avez construit, vous avez fabriqué, vous avez élaboré, vous avez fait tellement de choses pendant ces 38 années. Soyez-en remerciés en tant que public.
Merci beaucoup.
Le roman donc est sorti il y a quelques semaines, il est en vente, on peut le trouver où ?
Alors le problème c'est que actuellement tous les auteurs et tous les éditeurs sont dans une situation totalement ambiguë. C'est pas à vous que je vais le dire, les salons du livre n'existent plus. Les rencontres avec les lecteurs sont impossibles à organiser, etc. Donc on avait fait le choix, dans un premier temps, de le vendre par Internet, sans plateforme, je précise directement. Non. Ça a été la première étape. La deuxième étape, j'ai souhaité qu'on le mette en dépôt dans les librairies de Gironde. On est dans la deuxième étape. Et maintenant, la troisième étape, on élargit le cercle avec l'espoir qu'il y aurait une reprise de... du fonctionnement, mais je viens d'apprendre aujourd'hui que le salon du livre de Sadirac était annulé. Il s'annule les uns après les autres. Donc je crains que, malheureusement, la solution Internet devienne la solution...
Alors, commandez ton livre, Jean-Marie, qu'il s'appelle « Les 9 vies d'Ezio ».
Alors, on peut le commander sur toutes les plateformes. On peut le commander sur mon site, le site du livre qui a été créé, c'est www.jeanmarie-darmian.fr. C'est assez facile. L'éditeur est à La Ciotat, c'est un éditeur reconnu qui s'appelle « Des livres des auteurs ». Et j'avais pris un accompagnement par quelqu'un pour m'aider justement dans la diffusion et tout. Donc, ça marche fort bien. Le livre en est au troisième tirage, c'est-à-dire on a dépassé les 500 exemplaires vendus en quelques semaines, ce qui est quand même pas trop mal dans le monde actuel. Mais je crois que ce livre serait sorti en des temps normaux, ça m'aurait permis justement de l'accompagner par des discussions, par des dialogues, par des retrouvailles.
J'entends bien.
C'est ça que je voulais, et puis je suis un peu frustré là.
Autour d'un verre de Sassicaia, autour d'un verre de Passito de Pantelleria, des Moscato de Pantelleria, voilà. Des Cinque Terre,
voilà.
Autour d'un vin exceptionnel, autour d'une petite des prosciutto, autour bien entendu de ces petits amuse-bouches italiens,
oui,
qui sont renommés, et je dois dire que c'est un moment de convivialité, de partage. Donc ce livre est en vente à 15 euros, en
oui,
fait. Donc
très bas, on l'a mis très bas. C'est moi qui ai souhaité que ça soit le plus bas possible. Je précise que les droits d'auteur, je ne les prends pas. Ils seront reversés à la CIMAD pour l'aide à l'immigration et aux gens en difficulté. Donc je ne le fais que par conviction, par motivation et
par surtout besoin de transmettre.
Bien entendu, de transmettre cette part de vie, de transmettre cette expérience que tu as vécue toi-même à travers ce médecin de Créon, si mes souvenirs sont bien frais dans mon esprit, et puis ce certificat d'études qui était à Sauveterre de Guyenne, en fait.
Oui, c'est à l'école primaire à quelques centaines de mètres. Ils ont habité ici, dans la ville Bastide. C'était des Sauveterrois intégrés. Après, l'usine a émigré, elle est partie à Libourne, où ils sont devenus une très grande entreprise, très connue, et je le signale aussi. C'était altruiste parce qu'il avait fait un don très important à la commune de Créon, cet homme-là. Et sa belle-sœur a fait don de sa maison et de tous ses biens à la ville de Libourne pour en faire un lieu de culture. Donc voilà. C'était quand même des gens qui avaient ancré en eux un certain nombre de valeurs.
Plus que des valeurs, parce qu'ils ont réussi grâce à leur pugnacité, grâce à leur intelligence du cœur aussi également. Et je voudrais te remercier, Jean-Marie, d'être venu à notre rencontre. Nous continuerons, nous te réinviterons, parce que tu es une Bible, tu es une mémoire vivante de cet Entre-deux-Mers que nous adorons. L'Entre-deux-Mers, eh bien, c'est une région magnifique. Nous voudrions vous souhaiter un excellent week-end à toutes et à tous. Jean-Marie Darmian, je te laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est profiter de tous les instants de la vie et profiter pour aller vers les autres, partager avec les autres et vivre avec les autres. C'est ce que l'Italie apporte le plus à l'humanité.
Merci Jean-Marie. Bonne fin de journée à vous et bon week-end sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4. Ne changez pas de fréquence.